Le livre de Daniel, numéro 176.
La révélation divine et le réveil final. Enseignement tiré de la vision de Daniel.
Au chapitre 10 du livre de Daniel, Gabriel accomplit l'œuvre de présenter l'interprétation complète du livre de Daniel au peuple de Dieu des derniers jours. Daniel représente le peuple de Dieu des derniers jours, qui, dans le livre de l'Apocalypse, sont des 144 000. À ce titre, les 144 000 s'éveillent et reconnaissent qu'ils ont été dispersés, comme Daniel le représente au chapitre 9. Ils s'éveillent également à la compréhension que la grande épreuve par laquelle leur destinée éternelle est décidée est l'épreuve de l'image de la bête, qui a lieu avant qu'il ne soit scellé et avant la clôture de la probation au moment de la loi du dimanche aux États-Unis. Ils pleurent la déception à laquelle ils ont été confrontés le 18 juillet 2020 et, dans cet état, il leur est donné une vision du Christ dans le lieu très saint, comme le représente Ésaïe au chapitre 6. Cette vision, telle que Daniel et Ésaïe la décrivent, leur permet de voir leur condition corrompue devant le Seigneur de gloire, et tous deux sont abaissés dans la poussière. Ésaïe entend alors la question de savoir qui Dieu enverrait à son peuple, et il se propose, mais il est d'abord purifié.
Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Car mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise ardente qu'il avait prise avec des pincettes sur l'autel. Il en toucha ma bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée et ton péché expié. » J'entendis aussi la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Je dis, « Me voici. » Envoie-moi. Ésaïe 6, 5, 18.
Ésaïe fut purifié avec un charbon pris sur l'autel, et Daniel fut purifié en contemplant la vision miroir causative, qui amène celui qui la contemple à se transformer à l'image de ce qu'il voit. On dit à Ésaïe de porter le message à un peuple qui, entendant, n'entend pas, et voyant, ne voit pas.
Est-il dit, va et dis à ce peuple, vous entendez bien, mais vous ne comprenez pas. Vous voyez bien, mais vous ne percevez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, alourdis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne de son cœur, ne se convertisse et ne soit guéri. Ésaïe 6, 9, 10.
Ésaïe souhaite savoir combien de temps il doit traiter avec les gens qui comprennent et ne perçoivent pas alors. Il pose la question, jusqu'à quand?
Alors je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées sans habitants, que les maisons soient sans hommes, et que le pays soit entièrement désolé, et que le Seigneur ait éloigné les hommes au loin, et qu'il y ait un grand abandon au milieu du pays. Ésaïe 6, 11, 12.
Le pays qui fait l'objet de la prophétie biblique dans les derniers jours, ce sont les États-Unis, qui sont totalement dévastés lorsque la ruine nationale est provoquée par l'apostasie nationale de la loi du dimanche. Le verset 41 de Daniel 11 a été préfiguré par le verset 16 du même chapitre. Au verset 41, le grand abandon au milieu du pays est identifié comme le renversement de beaucoup. Le message chiffre d'Ésaïe, auquel Jésus a fait référence lorsqu'il s'adressa aux Juifs ergoteurs au cours de sa vie parmi les hommes, montre que, lorsqu'un ancien peuple de l'Alliance est mis de côté, il a alors des oreilles et des yeux qui ne comprennent ni ne perçoivent. Le message d'Ésaïe représente l'appel final à l'adventisme laodicéen qui s'achève à la loi du dimanche, où l'adventisme laodicéen est vomi de la bouche du Seigneur.
Il entrera aussi dans le pays glorieux, et plusieurs pays seront renversés. Mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon. Daniel 11, 41.
Ésaïe et Daniel se voient confier la responsabilité de présenter le dernier appel à Laodicée. Et, au chapitre 10, lorsque Daniel est touché pour la troisième fois, il est fortifié pour la tâche.
Alors, de nouveau, quelqu'un ayant l'apparence d'un homme vint et me toucha, et il me fortifia. Et il dit, « Ô homme très aimé, ne crains point, que la paix soit avec toi. Sois fort, oui, sois fort. » Et lorsqu'il me parlait, je fus fortifié. Et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Daniel 10, 18, 19.
Daniel fut fortifié pour donner le message qu'il vint à comprendre lorsque Michel descendit au chapitre 10. Ésaïe fut informé qu'il devrait donner le message jusqu'à la loi du dimanche. Lors de la loi du dimanche, un reste serait établi.
Alors je dis, « Seigneur, jusqu'à quand ?» Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, sans habitants,
que les maisons soient sans hommes et que le pays soit entièrement désolé, et que le Seigneur ait éloigné les hommes au loin et qu'il y ait un grand abandon au milieu du pays. Mais il y subsistera encore un dixième, et il reviendra et il sera consumé, comme le térébinthe et le chêne dont la souche demeure en eux quand ils perdent leurs feuilles. Ainsi la sainte semence en sera la souche. Ésaïe 6, 11, 13.
Quand il y aurait un grand abandon au milieu du pays, à la loi du dimanche, il se manifesterait un dixième, dont la substance est la semence sainte. La racine du mot hébreu traduit par dixième est dîme. Le Seigneur aura une dîme qui sera revenue lors de la loi du dimanche.
Et toute la dîme de la terre, qu'elle provienne des semences de la terre ou du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Elle est sainte pour l'Éternel. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de ces dîmes, il y ajoutera un cinquième. Et pour ce qui est de la dîme du gros ou du menu bétail, de tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera saint pour l'Éternel. Lévitique 27, 30, 32.
La dîme qui revient est consacrée au Seigneur, et elle est la part du Seigneur.
Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Deutéronome 32, 9.
Ceux qui sont revenus avant la loi du dimanche sont ceux que Jérémie représente et qui ont subi la première déception, à qui le Seigneur avait promis que, s'il revenait, il serait la bouche du Seigneur, ou ses porte-paroles.
J'ai trouvé tes paroles, et je les ai dévorées. Et ta parole a été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé par ton nom, ô Éternel, Dieu des armées.
Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, ni ne me suis réjoui. Je me suis assis seul à cause de ta main, car tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma douleur est-elle perpétuelle et ma blessure incurable, qui refuse d'être guérie? Seras-tu pour moi tout à fait comme un menteur, comme des eaux qui tarissent? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens, je te ramènerai, et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares le précieux du vil, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent à toi, mais toi ne reviens pas vers eux. Et je ferai de toi pour ce peuple une muraille d'airain fortifiée. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas contre toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Et je te délivrerai de la main des méchants, et je te rachèterai de la main du terrible. Jérémie 15, 16, 21.
Le reste, ou le dixième, qui revient dans le témoignage d'Ésaïe, devait être mangé, car il lui avait été confié le message de Dieu et sa parole devait être mangée. C'était ceux qui seraient la bouche de Dieu et, ce faisant, il présenterait la parole de Dieu, laquelle devait être mangée par ceux qui cherchent le salut. Jérémie ne s'est pas assis dans l'assemblée des moqueurs, car comme pour Daniel, lorsqu'il vit la vision, l'assemblée des moqueurs s'enfuit. Jérémie avait pensé que Dieu lui avait menti, car la main de Dieu avait permis la première déception du 19 avril 1144 dans l'histoire millérite et du 18 juillet 2020 dans les derniers jours. La promesse faite à Jérémie était que, s'il revenait, et dans le passage d'Ésaïe, le dixième revient. Si Jérémie revient, il fait partie du dixième d'Ésaïe, qui est saint et constitue la part du Seigneur, dont la substance est en eux. Le mot hébreu « substance » signifie une colonne, et être fait colonne est la promesse faite aux Philadelphia.
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de la part de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 12, 13.
La colonne, c'est-à-dire leur substance, représente l'union de la divinité et de l'humanité, car Christ est la colonne qui soutient le temple.
Alors que je me trouvais dans cet état d'abattement, je fis un rêve qui fit sur mon esprit une profonde impression. Je rêvais que je voyais un temple vers lequel affluaient de nombreuses personnes. Seuls ceux qui se réfugiaient dans ce temple seraient sauvés lorsque le temps viendrait à s'achever. Tous ceux qui restaient au dehors seraient perdus à jamais. Les foules à l'extérieur, qui vaquaient à leurs occupations, raillaient et ridiculisaient ceux qui entraient dans le temple et leur disaient que ce plan de salut était une habile tromperie, qu'en réalité il n'y avait aucun danger à éviter. Elles en saisissaient même certains pour les empêcher de se hâter d'entrer dans le temple. Craignant d'être ridiculisé, je pensais qu'il valait mieux attendre que la foule se disperse ou jusqu'à ce que je puisse entrer sans être remarqué. Mais la multitude s'accroissait au lieu de diminuer, et craignant d'arriver trop tard, je quittai précipitamment ma maison et me frayai un passage à travers la foule. dans mon empressement à gagner le temple, je ne prêtais aucune attention à la foule qui m'entourait. En entrant dans l'édifice, je vis que le vaste temple était soutenu par un seul pilier immense, et à celui-ci était attaché un agneau tout mutilé et ensanglanté. Nous qui étions présents semblions savoir que cet agneau avait été déchiré et meurtri à cause de nous. Tous ceux qui entraient dans le temple devaient venir devant celui-ci et confesser leurs péchés. Juste devant l'agneau se trouvaient des sièges surélevés, sur lesquels était assise une assemblée qui paraissait très heureuse. La lumière du ciel semblait rayonner sur leurs visages, et ils louaient Dieu et chantaient des cantiques d'actions de grâce joyeux qui ressemblaient à la musique des anges. C'étaient ceux qui étaient venus devant l'agneau, avaient confessé leurs péchés, avaient reçu le pardon et attendaient maintenant dans une joyeuse attente de quelque heureux événement. Même après avoir pénétré dans l'édifice, une peur m'envahit, ainsi qu'un sentiment de honte à l'idée que je devais m'humilier devant ces gens. Mais je me sentais dans l'obligation d'avancer, et je faisais lentement le tour du pilier afin de faire face à l'agneau, lorsqu'une trompette retentit, le temple trembla, des cris de triomphe s'élevèrent des saints assemblés. Une lumière terrible illumina l'édifice, puis tout devint ténèbres profondes. Les gens heureux disparurent tous avec la lumière, et je me retrouvai seul dans l'horreur silencieuse de la nuit. Je me réveillais en proie à une agonie d'esprit et pouvais à peine me convaincre que j'avais rêvé. Il me semblait que mon sort était scellé, que l'Esprit du Seigneur m'avait quitté, pour ne jamais revenir. Témoignage, volume 1, 27.
La substance, qui est dans le dixième qui revient, est le pilier qui soutient le temple. Daniel vit la vision causale de l'agneau qui était suspendu au pilier, et l'agneau était le pilier. Lorsque Daniel vit cette grande vision, il fut transformé à l'image du pilier, et le dixième d'Esaïe, de même, à la substance, le pilier, en lui. Et cette substance doit être mangée par tous ceux qui voudront entrer dans le temple. Ceux qui entrent dans le temple et mangent la substance sont l'autre troupeau de Dieu qui répond au message de l'étendard qui est élevé au moment de la loi du dimanche, quand il y a un grand abandon dans le pays. La semence sainte, qui est la substance d'Esaïe, est l'agneau qui a été sumolé dès la fondation du monde.
Le dixième qui revient sera délivré de la main des méchants. Quant à la loi du dimanche, la séparation de Philadelphie et de Laodicée sera fixée pour l'éternité, et beaucoup seront alors renversés. Ceux qui sont renversés sont identifiés comme les méchants qui ne comprennent pas. Le dixième sera aussi délivré de la main du terrible, car il ne recevra pas la marque de la bête.
Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je ferai aussi cesser la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadrezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui. Les redoutables parmi les nations seront amenés pour détruire le pays. Et ils tireront leurs épées contre l'Égypte et rempliront le pays de mort. Et je dessécherai les fleuves, et je vendrai le pays entre les mains des méchants. Et je réduirai le pays en désolation, ainsi que tout ce qui s'y trouve, par la main d'étrangers. Moi, le Seigneur, je l'ai dit. Ésaïe 30, 10, 12.
Le terrible des nations est l'armée par procuration du roi du Nord. Ceux pour lesquels l'étendard est levé au moment de la loi du dimanche sont délivrés de la main des vierges folles, ou méchantes. Et ils sont aussi délivrés de la main du terrible des nations. La question que nous traitons ici est qu'Ésaïe et Daniel et Jérémie et Ézéchiel et Jean sont tous employés pour représenter la résurrection et l'investiture de l'Ésis, des 144 000 qui reviennent de la déception du 18 juillet 2020. Dans la vision finale de Daniel, la vision donnée près du fleuve Hidékel, il est donné à Daniel de comprendre à la fois les visions internes et externes de la parole prophétique de Dieu. Et il est fortifié pour présenter ce message. Le message de l'interne et de l'externe est réuni avec la définition prophétique de la tête, ou forteresse, au verset 10, lequel identifie la guerre d'Ukraine actuellement menée par Poutine. Cette clé permettant d'identifier la tête a une application interne et externe, et le commencement de cette guerre marque la période où les deux têtes deviennent un sujet de prophétie. La forteresse, ou tête, en tant que Russie, identifie la deuxième guerre par procuration, laquelle conduit à la troisième guerre par procuration, qui marque le début de la troisième guerre mondiale, comme l'illustre typologiquement la bataille de Panium au verset 15. Le verset 16 correspond à la loi du dimanche. Par conséquent, de 2014, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, comme le représentent les versets 11 et 12, jusqu'à la loi du dimanche, s'accomplit l'œuvre finale liée au scellement du peuple de Dieu. L'interprétation de Gabriel au chapitre 11 de Daniel représente le message qui sanctifie, ou scelle, le peuple de Dieu. Ignorer ce fait, c'est tout manquer. La prophétie qui est décelée, que le livre de l'Apocalypse appelle la révélation de Jésus-Christ,
et que le livre de l'Apocalypse identifie comme étant décelé juste avant la clôture de l'approbation, est un passage spécifique du livre de Daniel.
Et il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Apocalypse 22, 12, 11.
Dans les derniers jours, il y a un temps précis où la prophétie finale est décelée, car le verset dit « le temps est proche ». Cette expression même, située dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, se trouve aussi dans le premier chapitre.
La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, lequel a rendu témoignage à la parole de Dieu, au témoignage de Jésus-Christ et à tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Apocalypse 1, 1, 3.
220, et par conséquent, 22, sont des symboles de la combinaison de la divinité avec l'humanité et l'œuvre finale du troisième ange, qui est le scellement des 144 000, s'accomplit dans le contexte prophétique de la parabole des 10 vierges. Les vierges sages des derniers jours ont subi leur première déception le 18 juillet 2020 et elles furent dispersées comme des ossements morts dans la rue d'Apocalypse chapitre 11 jusqu'en juillet 2023, 22 ans après le début du processus de scellement en 2001. Le temps était alors proche et le Seigneur suscita alors une voix dans le désert qui avait reçu le message de Gabriel, qu'il avait reçu du Christ, qu'il avait reçu du Père. La voix s'est alors mise à envoyer le message aux églises. Et il a été diffusé par voie électronique, de sorte qu'on peut le lire et ou l'entendre actuellement dans plus de 60 langues. La partie de la prophétie dont le sceau a été levé, c'est-à-dire ce message, se trouve dans le livre de Daniel.
Le livre qui a été scellé n'est pas l'Apocalypse, mais cette partie de la prophétie de Daniel concernant les derniers jours. L'ange ordonna « Mais toi, Daniel, tiens secrètes les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Daniel 12, 4. Les Actes des Apôtres, 585.
La partie de la prophétie de Daniel relative aux derniers jours est le verset 40. Ce n'est pas simplement le verset 40, c'est la portion du verset 40 qui est représentée après le temps de la fin en 1989 et avant la loi du dimanche du verset 41. L'histoire du verset 40, qui n'est pas mentionnée dans le verset lui-même, est la partie de la prophétie relative aux derniers jours qui était scellée, et qui, depuis juillet 2023, est en train d'être décellée pour ceux qui choisissent de voir et d'entendre. Le verset 40 ne rapporte rien de l'histoire qui suit l'effondrement de l'Union soviétique en 1989, jusqu'à la loi du dimanche du verset 41. Mais il fournit la plateforme prophétique sur laquelle doivent être placées d'autres lignes de prophétie. Ceux qui ne veulent pas voir et entendre que la méthodologie de ligne sur ligne et la méthodologie de la pluie tardive n'ont pas la capacité de voir l'histoire cachée du verset 40, et c'est l'histoire qui est la révélation de Jésus-Christ, que Gabriel est venu interpréter pour Jean et Daniel. Nous poursuivrons cette étude dans le prochain article.
À Bérée, Paul reprit son œuvre en se rendant dans la synagogue des Juifs pour prêcher l'évangile du Christ. Il dit à leur sujet « Ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques de distinction et des hommes en grand nombre. » Dans la présentation de la vérité, ceux qui désirent honnêtement être dans le vrai seront éveillés à une recherche diligente des Écritures. Cela produira des résultats semblables à ceux qui accompagnèrent les travaux des apôtres à Bérée. Mais ceux qui prêchent la vérité de nos jours rencontrent beaucoup de personnes qui sont à l'opposé des Béréens. Ils ne peuvent réfuter la doctrine qui leur est présentée, pourtant ils manifestent la plus grande réticence à examiner les preuves offertes en sa faveur, et supposent que, même si c'est la vérité, il importe peu qu'ils l'acceptent ou non comme telle. Ils pensent que leur ancienne foi et leurs coutumes leur suffisent. Mais le Seigneur, qui a envoyé ses ambassadeurs avec un message au monde, tiendra les hommes pour responsables de la manière dont ils traitent les paroles de ses serviteurs. Dieu jugera chacun selon la lumière qui leur a été présentée, qu'elle leur paraisse claire ou non. C'est leur devoir d'examiner comme le firent les Béréens. Le Seigneur dit par le prophète Osée, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. » Les esprits des Béréens n'étaient pas bornés par les préjugés. Et ils étaient disposés à examiner et à recevoir les vérités prêchées par les apôtres. Si les gens de notre époque suivaient l'exemple des nobles Béréens, en scrutant les Écritures chaque jour, et en comparant les messages qui leur sont apportés avec ce qui y est consigné, il y aurait des milliers de personnes fidèles à la loi de Dieu, là où il n'y en a qu'une aujourd'hui. Mais beaucoup de ceux qui professent aimer Dieu n'ont aucun désir de passer de l'erreur à la vérité, et ils s'attachent aux fables séduisantes des derniers jours. L'erreur aveugle l'esprit et éloigne de Dieu, mais la vérité éclaire l'esprit et donne la vie à l'âme. Esquisse de la vie de Paul, 87-88.